Joseph Malègue, Augustin ou le maître est là. Chapitre 7, l'office des morts. Quatrième partie, la voix qui pleurait dans Rama. La grosse Marie entra en se frottant les mains pour se défendre d'un froid qui commençait d'être engourdissant. Cette fois-ci, messieurs et dames, c'est l'arrière-saison. Ayant demandé si ça n'allait pas mieux, elle commença dans la maison ses bruits coutumiers. Pour qui eût senti les différences, il manifestait cependant on ne savait quoi de plus libre, de moins englué de pesanteur et d'inertie. Les portes se fermaient, les brodeaux se posaient sur la pierre, avec une soudaineté franche, alerte et vaguement gaie, sur laquelle le deuil d'à côté ne mordait pas. La grosse Marie allait se marier. Au cas où vous l'eussiez par hasard ignoré, ou peut-être oublié, vous auriez pu le deviner aussi à un relent de pâte à l'œillet pour les mains et d'eau pour les cheveux qu'elle s'était mise en l'honneur du dimanche et qui semblait si tenace et de si bonne qualité qu'il voltigeait encore le lundi dans ses coups de jupe. Ainsi, le garçon boucher expéditeur qui la fréquentait pouvait comprendre qu'il ne prenait pas seulement une fille solide et lourde en viande, mais une qui savait porter toilette, aimait la bonne odeur et ferait bien dans un café. Aucune de ces considérations simples et saines n'intéressait les trois personnes enchaînées aux dernières heures d'un enfant mourant. La grosse Marie resta peu de temps. Lorsque le médecin vint, elle était déjà partie. Penché très bas sur le berceau, il examina, comme tous les matins, l'enfant couché dans la position d'avant l'amélioration, jambes pliées, dos rond, tournant contre la lumière un affreux petit visage rouge et contracté. Le plus triste désordre déshonorait cette pièce, dont Augustin avait aimé dans les premiers jours la netteté ascétique. Au milieu de la cheminée, un biberon attendait, inentamé, refroidi, qu'on ne regardait plus. Des linges ou des étoffes, on ne savait quoi, gonflaient en petits tas mous au pied du lit, hâtivement recouverts, portant, sous le jeté, des bosses diffuses. La masse des brumes, ouatées et mates, circulant derrière les fenêtres, remplissait la chambre d'un blanc horizontal. Bébé gémit quand le médecin passa la main sous son petit corps et qu'il essaya de prendre son pouls. Le médecin n'insista pas. « C'est une rechute grave ?» demanda Christine d'une voix dure. Augustin écoutait comme il allait mentir, mais il laissa tomber la question, parla de température, se fit montrer la courbe, opposa un ton froid à ses durs yeux noirs pathétiques. « Il ne boira pas beaucoup de lait, j'en ai peur. Vous pourriez lui préparer de l'eau sucrée. S'il souffrait pour avaler, vous humecteriez ses lèvres. Ça suffira pour quelques jours. Comment va votre mère, Memetta ?» Ils y furent tous les trois. Memetta, en effet. Pourquoi vouliez-vous qu'il changeât? Toutes choses restaient identiques. La même mèche au reflet d'argent sale passait sous le bonnet de nuit. Christine la replaça doucement et lui baisa le front. La vieille femme, assise sur le lit sans traversin, pour que le dos s'appliquât directement aux oreillers tassés contre la muraille, se réchauffait de couvertures et fichus de laine toujours croulants. Le médecin remplaça le strophanthus par la théobromine. « Faut-il maintenir la fenêtre entr'ouverte par ce temps glacial ?»« Oui, mais faites du feu et couvrez-la bien, mieux que cela. » Puis il partit comme tous les jours. C'était dans l'escalier, où Christine, retournant à l'enfant, ne les suivait pas, que les confidences avaient coutume de s'échanger. Une tradition se formait. Elle réglementait jusqu'au timbre de voix dont se servaient les deux hommes. Ils n'eussent pas eu l'idée de parler sans façon ni précaution, de la manière ouverte dont on demande par exemple « Comment allez-vous ?» Il fallait baisser le ton, faire choix d'un murmure bas et sourd, afin que l'escalier ne pût rien rapporter au palier, ni celui-ci à la salle à manger. Une fois attaqué sur ce mode mineur, la conversation continuait jusque dans la rue, avec des arrêts, des reprises, des surplaces et des hâtes selon les heures. Cette fois, ce fut plus bref. Si l'enfant ne crie pas trop quand on le met au bain, essayez de l'y mettre. Si vous voyez une souffrance inutile, dissuadez-en votre sœur. C'est tout. Ça peut durer encore de 5 à 8 jours. Plutôt 5 que 8. Augustin fixait d'une attention immobile une tache de rouille rugueuse et rousse qui rongeait la balustrade. Quant à votre mère, dosez-lui le choc, hein? Son myocarde n'est pas en état de le supporter, vous le pensez bien. Oh non! Il prolongea, fila, nuança cette « Oh !» Augustin murmura d'une voix flottante et déracinée « Est-ce qu'il y a un danger mortel ?» Comme ce mot le pétrifiait, il s'aperçut qu'en avance sur sa sensibilité, sa pensée seule avait redouté cette mort. Le médecin eut un geste d'incertitude, puis se mit à parler comme pour lui-même. Inutile de suractiver le cœur, déblayer l'engorgement veineux et les barrages de la circulation, ça suffit pour le moment présent. Combien de temps durera ce moment? Ce n'est pas moi qui peux le dire. Du lait, des diurétiques, avant le coup de foulet de la digitale. Votre mère allait un peu mieux? Elle parlait mieux, elle se couchait presque. Voilà, elle respirait couchée, elle urinait. Voilà, voilà. À chaque « voilà », une secousse de la main triomphait d'un contradicteur virtuel. « C'est cette nuit, ce matin, qu'elle a recommencé d'étouffer ?»« Ce matin, devant l'aggravation de l'enfant. » Le médecin projeta le menton en avant et écarta subitement les deux bras. Le geste disait « devancez ». La voix se borna à un conseil « ménagez-lui le choc, c'est une question de vie ou de mort ». Revenant de conduire le médecin, Augustin s'arrêta à la porte de l'appartement, eut un souvenir de cellier et de bûche, redescendit 3 marches, se souvint de la clé, remonta. « Je voudrais la clé du bûcher. » Christine le regarda égarée. « Pour faire du feu dans la chambre, je commanderai un poêle à bois, mais nous ne l'aurons que demain. » « Ah oui, » fit Christine. Augustin entra dans le jardin, fut pénétré par la gluante brume, tourna 2 reprises une clé dure, respira un air de caveau et de poussière de bois venant des bûches entassées sur un sol d'ancienne écurie où la rigole centrale le marquait encore. Il s'écorcha les mains à des nœuds et des échardes, remonta fatigué à pas lents. Il sentait le poids du bois et la douleur des échardes. D'inertes idées gonflèrent autour de cette souffrance. Toujours les mêmes idées sur la vertu des besognes humbles, le prix de la pauvreté et autres romantismes tolstoïens. Chercher son eau, chercher son pain, couper son bois, monter son bois, comme les petites gens de chez moi autrefois. On le porte avec des os, avec des chairs, avec des muscles, qui touchent d'un côté aux choses humbles, et de l'autre à l'esprit, comme une bêche touche à la terre, et de l'autre côté touche à la main. Un grand luxe, quand tout cela obéit bien, se place où il faut, se fait oublier. Il continuait de monter en serrant les bûches. Il les maintint à grand-peine, en serrant très fort. Elles s'abattirent sur le seuil même. Il les releva une à une. Évidemment, une femme d'ouvrage à demeure était indispensable, une domestique, une garde pour la journée et la nuit. Il l'avait fait demander la veille par la mère Rambaud et de nouveau par le boulanger. On devait bien trouver, dans cette population de paysans riches, quelque ancienne rentière en train de mourir de faim sur ses empereurs russes ou son turc unifié. Une vieille femme d'autrefois, définitivement plongée et pour cause dans la profondeur des fameuses choses humbles. Augustin descendit pour chercher des brindilles et des fagots dans un autre coin du bûcher. Par la force des choses, en cet incroyable désarroi matériel, son esprit dut se peupler de pensées nouvelles et de préoccupations de ménage, comme de couvrir son lit, vider les eaux de toilette, faire bouillir des bassins d'eau, disposer sur la table de cuisine ce qui ressemblait à un déjeuner. Christine en prendrait ce qu'elle voudrait. Elle ne pouvait s'occuper elle-même de toutes ses besognes. La malheureuse le faisait cependant. Son frère la surprit, retournant son lit à lui, qu'elle trouvait bâclé. Déjà, le traversin chevauchait deux chaises juxtaposées. Il dut se précipiter pour l'arrêter. « Laisse, laisse !» disait Christine, de cet air sombre et absorbé qu'elle ne quittait plus. « Il faut bien que ces choses se fassent. » Ils s'y mirent tous les deux. Elle ajouta de la même voix perdue. « Peut-être aurons-nous quelqu'un cet après-midi ?» La mère Rambaud a une personne en vue. Elle avait l'air de remplir avec une sorte de résignation mêlée de rage toutes les tâches qu'il arrachait au berceau. Peu de temps après, comme il venait de lui faire avaler par force quelque affreux déjeuner sommaire, « Je ne sais plus que faire pour bébé, » dit-elle. « Il a une fièvre terrible, il gémit dès que je le touche. Je ne sais si je dois lui donner un bain. » « Je le laisserai tranquille, » fit Augustin qui se rappela le conseil du médecin. « Peut-être un peu d'eau sur le front et les lèvres ?» Elle ne tarda pas à le rappeler. « Il me semble que bébé louche, que ses regards chavirent. » Mais pour observer deux pupilles inégales et deux yeux divergents, il fallait chercher attentivement dans les blanches ténèbres du berceau. Le nouveau trouble ne s'était montré qu'à une investigation maternelle minutieuse, constante et agenouillée, pour laquelle ne comptait pas sa propre crucifixion. « C'est peu de choses, » dit Augustin en se relevant. « Je ne vois rien de bien spécial. » Il avait conscience de la douceur tremblante avec laquelle il mentait. Un très léger soubresaut agita le petit bras sur la couverture. Christine se remit à humecter les lèvres de l'enfant. Augustin la quitta pour l'autre malade, puisqu'ainsi s'écoulait leur jour. Il ne pénétrait chez sa mère que sur la pointe du pied, comme s'il fallait respecter l'impressionnant silence qui commençait de régner dans l'appartement. Il arrangea le feu, renouvela le bois qui se consumait vite. Une claire flamme voltigea sur les bûches, parmi les fumées à goût de terreau et l'ébullition des gouttelettes sur les écorces. La température ne s'élevait guère. Un courant d'air léger, qui sentait la brume, agitait les rideaux et persistait dans les sifflements du feu. Christine survint, appuya un bol de lait contre les lèvres de la malade, refit l'arrangement des oreillers, embrassa sa mère, partit. Les bouffissures blafardes s'élargissaient sur le visage et sur le cou, et sans doute sur tout le reste d'un corps qui se préparait à vivre tout seul de son côté, de quelque vie laide et monstrueuse. Sa pensée, sa tendresse, tout ce qui constituait sa mère, avait à s'arranger de cela, pendant que c'était encore possible. Les deux yeux bleus passés continuaient le vieux sourire tendre, réalité spirituelle engluée dans des chairs qui ne s'y intéressaient plus. Ce fut ce sourire qu'Augustin surprit au passage, comme il se relevait, ayant rebâti l'édifice du feu. Il s'approcha, dégagea un bras qui remuait dans le tas informe des couvertures, approcha son oreille pour qu'elle n'eût pas à parler trop fort. Les draps de lit, pas frais, sentaient l'urine. « Ta pauvre sœur, » dit-elle, « va passer par une épreuve. » Puis, émettant tout naturellement sa prière comme une autre forme de la prespiration, « Oh, mon Dieu, s'il n'y avait pas vous !» Ainsi, elle soupçonnait, elle savait. Nul besoin de rien lui cacher quand le temps viendrait. Je voudrais que le bon Dieu me laisse quelques jours pour la consoler un peu. Augustin dit qu'il ne fallait songer qu'à guérir, mais il vit que cette pensée la laissait aussi étrangère que les boursouflures du visage l'étaient à son sourire triste et tendre. Quand tu sortiras, continua-t-elle, mais ne sors pas exprès. Tu iras chez monsieur le curé lui demander de venir me donner la sainte communion et l'extrême onction. Ce grand mot d'extrême onction descendit en lui avec une magnificence solitaire, flambeau qui, sans s'éteindre, s'enfoncerait sous de profondes eaux. Lentement, naissait et prenait corps une certaine chose grave, imprécise, d'immense hauteur au-dessus de la vie, devant quoi la mort elle-même paraissait secondaire et même traversable. Il ne put que parler très simplement, comme elle-même. « Quand veux-tu te confesser? Ce soir? Demain? » « Si monsieur le curé pouvait venir demain, avant que j'aie pris le lait. » « Tu pourrais communier en viatique, » fit-il, réprimant tout attendrissement devant ce scrupule qui lui ressemblait tant. « Peut-être qu'il faudrait la permission. » « Je la demanderai pour toi. » Ce n'était même pas le mot « sérénité » qui convenait pour cette attente de la mort. Il était trop poétique, trop endimanché. Il différait trop des modestes sentiments quotidiens. Cette attente de la mort, d'une telle simplicité et si calme, ressemblait à toutes les autres attentes, celle de la nourriture, celle du coucher, celle du lendemain qui suivrait la nuit. À la suite de la pauvre malade, Augustin s'y sentait pénétrer de plein pied tout naturellement. Il lui semblait qu'elle fût assise sur sa chaise d'église, un peu en avance pour la messe, en un recueillement mêlé de repos. Bientôt la cloche sonnerait, elle s'agenouillerait, elle entrerait dans les formes réfléchies de la prière. Cette attente de la mort n'était-elle pas ainsi? N'en pouvait-on parler avec elle comme elle en parlait elle-même? Cette vieille femme cheminait d'un rythme si doux sur le morceau de chemin qui lui restait encore, qu'elle ne risquait guère de forcer, à cause de cette promenade au soir tombant, les battements de son cœur. Dans la rue, c'était un ciel bas et froid d'où la brume semblait partie. Mais elle n'avait fait que changer d'étage. Elle devait traîner et s'effilocher, pas beaucoup plus haut que les cheminées. Il faisait presque nuit. Il y avait pour 5 minutes de chemin jusqu'à la cure. Augustin retrouva le trottoir du jour de la foire, lorsque, dans la première épouvante, apercevant sous tous les personnages de la comédie économique les squelettes qui soutenaient les gestes, il opposait à chacun des passants qui ne s'en doutaient pas le pronostic de leur propre mort. Un mot de sa mère lui revint au coin de la vieille place du marché, devant la pharmacie où il avait tant attendu. « Oh, mon Dieu, s'il n'y avait pas vous !» Il s'entendit murmurer presque à voix haute, « S'il y a lui, il est bien caché. » Jamais il n'avait été moins maître de tout ce qui circulait sur ses chemins de pensée. En ce moment, c'était ce Schopenhauer, banalisé, qui ruisselle dans la littérature, mêlé au souvenir du Deus absconditus, cher au pascalisant. Sans doute d'autres visiteuses obséderaient à leur tour ce cœur qui ne choisissait pas. Il retrouvait les lassitudes de jadis. Les maisons le guidaient, barrait son trajet aux endroits qu'il fallait, lui ouvrit les correctes issues latérales. Il se fiait à cette complicité de son corps avec les maisons. Il coulait entre ces rives dont elle bordait sa route. Un ecclésiastique, venant en sens inverse sur le trottoir d'en face, donna dans sa direction un coup de son grand chapeau. Il l'aperçut vaguement dans l'obscurité à travers sa fatigue et sa rêverie. Une figure de piété imprimée sur métal, ne tenant plus qu'à un clou, ayant pivoté autour de ce clou, pendait la tête en bas contre une porte. C'était là. « Monsieur le curé ?»« Ça tombe mal !» cria la domestique au bonnet tuyauté. Elle se lança en une broussaille d'explications. « Monsieur le curé ne devait rentrer que le lendemain à 11 heures. Mais par compensation, sans doute, monsieur l'abbé venait de partir et n'y serait peut-être pas demain matin. » C'est juste qu'une nuit, n'est-ce pas? Et pour les malades, il y a monsieur le chanoine, l'ancien curé de... Elle cita une autre paroisse. Il est retiré, il y voit pas beaucoup, on le prévient quand il faut et il confesse encore un peu. Il y a aussi l'autre monsieur l'abbé, celui de Paris, qui est pour quelques jours ici. Il ne vous refusera pas. Attendez que... pauvre... Elle tira violemment sur la corde d'une sonnette qui retentit dans les étages. Pleine d'une bonne volonté confuse, elle demanda quel âge avait sa mère et branla la tête. Elle s'attristait, montrant cette spontanéité de l'âme populaire qui met à peu près tout en commun, les sentiments, l'usage des objets, jusqu'à la confidence des maladies que cachent les bourgeois. À tout hasard, Augustin lui demanda si elle ne connaissait pas une bonne, mais bien entendu, elle n'en savait pas. Derrière elle s'amorçait un couloir carrelé où pendaient des douillettes. Un grand abbé noir descendit l'escalier sonore. Il s'arrêta net devant Augustin, qui reconnut l'abbé Bourré. « C'est vrai, pensa-t-il, les 8 jours qu'il devait encore passer ne sont pas finis. » L'abbé le fit entrer dans un salon dont le plancher blanchâtre venait d'être lavé. Quelques chaises de paille le meublaient, avec des gravures religieuses et une sorte de secrétaire en bois teinté et verni. Le haut, abritant un rayonnage de livres, était séparé d'une partie inférieure fermée par un abattant qui formait table. Le premier vicaire, changé de poste, n'est pas encore remplacé, et il n'y a plus de troisième vicaire. Le nombre des vocations va diminuant, ce qui se répercute même dans les paroisses de ville des diocèses les moins touchées. Mais, vous savez, en cas de danger de mort, j'aurais pu, moi-même... Augustin se demanda s'il avait bien compris. L'abbé faisait tourner une clé autour de son index. Il avait ce sourire immobile et prolongé qui intriguait tellement Augustin dans leur première rencontre. « Mais oui, fit-il, n'importe quel ius canonicum. » Son œil chercha sur les étagères du meuble verni, autant celui-ci qu'un autre. Il se leva pour prendre un in-octavo broché de bleu. Augustin assistait muet à l'étrange scène. « C'est le catéchisme du Concile de Trente. Voyons. » Il est mis le des attentes. Chapitre 8 de la deuxième partie, paragraphe 13. D'une voix chantante et officielle, s'il y a danger de mort et qu'on n'ait pas la faculté de se confesser à son propre prêtre, l'Église, de crainte que quelqu'un ne périsse dans ces circonstances, permet à n'importe quel prêtre, uniquique sacerdoti, d'absoudre de toutes sortes de péchés. N'importe quel prêtre, fut-il privé du pouvoir de juridiction, fut-il interdit. Même Loisy pourrait confesser votre mère. Sacerdos in eternum. Se retournant, il fut fermé d'une poigne robuste la fenêtre d'où venait un vent coulis. Le livre bleu s'ouvrait sur l'abattant, couché sur le ventre, et sa couverture regardait le plafond. « Maintenant, continua l'abbé, quant à la qualité du ministre, ah non, ça c'est dans l'autre volume. » Il ferma le livre, le remit en place, chercha le tome 2, reprit son ton de lecture officiel. « Les ministres, dans l'exercice de leurs fonctions, n'agissent point en leur nom propre, mais Christi personam gerunt. Il joue le rôle du Christ, comme dans une pièce de théâtre, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, pourvu qu'ils emploient la forme et la matière voulues par l'Église, et qu'ils aient l'intention de faire ce qu'a voulu faire l'Église. L'Église en est restée à une époque formaliste du droit, commentait-il, formalisme d'une grande utilité d'ailleurs. Sauf l'irritant sourire qui lui aiguisait le visage, il faisait penser au cousin Jules expliquant devant l'auberge de la Fonsainte « Faut la transcription !» L'étonnement d'Augustin l'arracha pour quelques minutes à ses troubles. « Tous les traités de droit romain s'expliquent là-dessus, monsieur Bourret, » fit-il. « Mais si vous me permettez cette remarque, c'est l'intention qui, dans votre cas, me paraît déficiente. » L'abbé, qui replaçait les deux livres, se retourna. « Déficiente ? Comment cela ? Mon intention en tant qu'homme est hors de question et d'enquête. Mon intention en tant que prêtre seule compte. Elle est sans défaut. » « Je ne discuterai pas, dit Augustin, avec une extrême douceur, cette illusion psychique. » Et il se leva. « Mais d'ailleurs, voyez-vous-même, l'abbé retira le livre qu'il venait de ranger. Tenez, même page, quelques lignes plus loin, même Judas Iscariote, fit-il d'une bouche qui trouva l'art d'insérer dans son sourire primitif un autre et plus profond sourire. Même Judas Iscariote. » Quelqu'un frappa à la porte d'un heurt dur, en même temps que se levait derrière lui un grand cri indistinct et urgent. L'abbé ouvrit. « Faut manger la soupe !» annonça la bonne. L'abbé referma. Même Judas Iscariote avait baptisé plusieurs dont nous ne lisons pas qu'aucun ait dû être rebaptisé, tandis que le baptême de Jean-Baptiste dut être redonné par les disciples de Jésus. Je vous dis cela parce que vous craignez peut-être qu'en restant dans l'Église provisoirement, je ne manque en quelque sorte à mon contrat. Si, j'ai bien vu. Si. J'attendrai, monsieur le curé, dit Augustin, demain s'il vient, sinon après-demain. Mais, reprit l'abbé, comme s'il terminait une plaisanterie et retombait aux choses sérieuses, je vous demanderai, mon confrère, le chanoine B., mon ancien professeur au grand séminaire, qui a gardé de l'attachement pour moi. Il replaça le livre, effaça un pli qui se formait sur la couverture et ouvrit la porte. Augustin sentit l'odeur d'une soupe aux choux et aux haricots, et salua en passant la vieille bonne. Les aveux du voyage nocturne sous le grand sceau du secret, et d'autre part toutes les apparences conservées, les sacrements, les messes, l'habitation à la cure, quelle juxtaposition étrange! Un mois avant, Augustin eut cherché à comprendre cet extraordinaire plaisir de mystification flegmatique. Mais maintenant, à la pensée de cet homme confessant sa mère, une sorte de dégoût physique lui montait à la bouche et l'occupa jusqu'à la maison. Quand il rentra, il vit la nouvelle femme d'ouvrage. Elle était noire et de petite taille, l'œil et le nez également aigus. Elle tournait autour des sujets de conversation, donnait des conseils médicaux, citait un autre enfant en exemple. Les médecins l'avaient abandonné, madame, pour dire la vérité, il était un peu plus grand. Eh bien, il l'a guéri avec de l'eau magnétique. Cet « il » devait se rapporter à un personnage déjà nommé avant l'arrivée d'Augustin. Comme on ne lui répondait pas, elle s'arrêta en une résignation pincée. Elle s'appelait elle-même Madame, Madame Boudet. Elle nommait son défunt époux Monsieur Boudet. Monsieur Boudet, expliquait-elle, disait à ses messieurs. Monsieur Boudet devait être quelque employé subalterne de la mairie, peut-être le concierge. Et ces messieurs représentaient la partie des hiérarchies administratives françaises qui constituait au-dessus de Monsieur Boudet une sorte de cylindre fait de rondelles successives et superposées. Bien qu'il fût la plus basse et peut-être même le morceau de sol qu'elle recouvrait, M. Boudet luisait de la gloire et du prestige de toute la colonne. Ce prestige étant impersonnel, abstrait comme la République, et par conséquent insécable, chacune des rondelles et leur assiette bénéficiaient de lui tout entier. Augustin pensa au mot de la mère Rambaud. Il y aurait bien la Marie Boudet, mais elle est si drôle. Au demeurant, peu importait le pittoresque de cette honorabilité susceptible. Ils avaient besoin d'un minimum de service pour leur chambre hâtive et leur repas squelettique. Madame Boudet suffisait. Elle pouvait même faire en plus quelques petits savonnages. Elle viendrait à 10 heures, resterait dans l'après-midi de 3 à 7. Elle dit d'un ton sec qu'elle ne veillait pas. D'ailleurs, elle ne serait pas allée dans toutes les maisons, vous comprenez bien. Augustin rendit compte à sa mère de ses démarches ecclésiastiques, promit pour le lendemain la visite du curé ou celle du vicaire ou celle du chanoine, expliqua avec précision les présences et les absences du clergé paroissial. Il se rappelait qu'elle aimait, lorsqu'elle allait bien, qu'on lui rapportât avec minutie le détail des besognes domestiques qu'elle confiait. C'était moins un contrôle des tâches exécutées qu'un sentiment de communauté et comme de fusion de cœur avec celui de ses enfants qui était l'exécutant. La chambre était douce, chaude. Un poêle à bois en faïence bleue, livré et posé pendant l'absence d'Augustin, luisait sous la lampe. Celle-ci partageait la pièce en noires opacités capricieuses, refoulées par des sortes de golfes d'une faible couleur d'or marron et de contours imprécisables. Dans la salle à manger, l'abat-jour portait un rectangle de papier supplémentaire qui couvrait d'ombre le petit berceau. Christine refusa les sardines que Madame Boudet servit, refusa le potage aux pommes de terre et au lait. Assise près de l'enfant, elle s'enfonçait dans une absorption silencieuse. Augustin lui offrit de partager la veille, lorsque Madame Boudet fut partie, la mère Rambaud ne venant qu'une nuit sur deux. À sa surprise, elle accepta avec une docilité brisée. « Tu vois, dit-elle, bébé n'a besoin que de bien peu de choses. » Lui humectait les lèvres d'eau sucrée, baignait sa petite tête chaude. « C'est tout ce que je puis faire, je n'ose pas le remuer. » Il fut convenu qu'elle dormirait la seconde partie de la nuit. Augustin sommeilla presque tout de suite, et jusqu'à 2 heures du matin. Les plus lassantes images faisaient corps avec sa fatigue. L'abbé parlait devant des prélats du Concile de Trente en camail pourpre à fourrure d'hermine, sous des bonnets vénitiens. Augustin suivait avec une tension d'esprit extrême d'horribles choses sophistiques. Des abbayes romanes se voûtèrent sur son rêve. Anne passa près de lui sans le voir, sachant cependant qu'il était là. Un mélange de souffrance et de joie brûla sa poitrine. Il se réveilla sur cette douleur et toussa. Il se rappela le jour où, revenant de la seconde visite, il avait tourné son lit de façon à mieux voir le côté du paysage où se trouvaient les sablons. Il y regarda, malgré l'heure, se heurta aux ouates noires et trembla devant l'épaisseur. L'hostilité, l'impossible opacité de la nuit, le sentiment d'une identique impossibilité de ses désirs le poignit 2 ou 3 secondes. Mais il était fou. Rien n'avait changé, rien ne devait changer de ses espérances, de cette douce brûlure continue mêlée d'angoisse et de désir. Il plongea son front dans la cuvette, sentit comme toujours la rénovation glaciale et fit de nouveau face à la vie. Une raie verticale de lumière dorée bordait la porte de sa chambre, traînant un bout de queue à l'intérieur. Dans la demi-lueur où baignait la pièce, Augustin vit une Christine violemment simplifiée, osseuse, enfantinement pathétique, et les immenses yeux noirs qu'elle avait petite fille. Comment tenait-elle la malheureuse? N'entre pas voir maman, fit-elle. J'en viens, elle semble dormir. Elle fut s'étendre tout habillée. Lui s'assit à son tour sous le rond de la lampe jaune. Il pensa qu'il pourrait indifféremment prendre le fauteuil ou s'allonger sur le lit. Périodiquement, il se lèverait pour poser sur les lèvres de la petite victime la goutte d'eau sucrée qui tantôt serait léchée et tantôt resterait là. Cette ébauche de front derrière lequel les bacilles continuaient leur multiplication de vermine, il l'humecterait et l'essuierait tour à tour. Il pensait quoi? Il éprouvait quoi? Rien qu'une fatigue mortelle qui faisait choix pour mieux se faire sentir du moment où il appuyait la tête contre le dossier du fauteuil. Elle plongeait bien plus profondément que le corps, plus bas que cet amas de jointures dolentes. Il ne se donnerait certainement pas la peine de se rendre compte de quoi il souffrait, de quoi il était fatigué. Qu'est-ce que c'est que se rendre compte? Comme il retournait vers Anne et son rêve, un souvenir lui revint. Les buées sur l'étang dans la lune au sablon. Elles étaient en or, au bas des gorges sur les prairies, de nacre et d'argent. Or, c'étaient les mêmes. C'est ainsi qu'on se rend compte. Sur la table se trouvait un petit pot laissé par Christine. Il le saisit, le sentit, du café. Une tasse et demie, peut-être. Il but à même le pot ce café fort et froid où restait un peu de marc. À côté, le bol vide où sa sœur avait bu. Une mouche noyée dans la soucoupe. Oui, qu'est-ce que c'est que se rendre compte? Bien sûr, naturellement, en pouvait-il douter? Les préoccupations religieuses se retrouvaient là. C'était pour elle le moment des moments. Elle jouait leur jeu, obsédante comme jadis, mais en d'autres cantons de l'universelle inquiétude, errant sur d'autres plages le royaume des fins, de la mort et de l'éternité. Extraordinaire ténacité de ce problème des fins, toujours là, à toute heure, dans la brume, dans le soleil, dans la nuit, au bûcher, sous la charge des bûches, parmi les rues de la petite ville, dans le déchirement ou l'inertie ou l'excitation ou la lassitude, sous son propre nom ou sous un autre, sous le pseudonyme de la vie humble ou d'autres déguisements, l'éternel problème des fins le fixerait comme un grand visage jusqu'à ce qu'il réponde. Augustin le suppliait, l'interpellait. « De grâce, laisse-moi. Est-ce cette nuit-ci que je te résoudrai au chevet de ce petit moribond ?» Lui s'écartait un instant, revenait vite, parlait par allusion, par incidente, utilisait les occasions. Et Dieu sait s'il en manquait dans cette maison de mort. Augustin recevait chaque fois comme un frappement de doigt sur l'épaule. Parfois la question des questions n'avait besoin de prononcer aucun mot. Une simple couleur de sensibilité, à base de désolation, de dégoût, d'anxiété et de monotonie. Cela voulait dire « Je suis là ». Cette nuit-ci, parmi toutes les nuits, il lui semblait qu'il eût pu dessiner « Voyez-vous, là, en noir, sur la toile cirée, les causes secondes en troupeau. Oh, emmêlées, effroyablement emmêlées. Mais attendez, cela n'est rien. Ajoutez « nécessaire, calculable, impassible, pareil à la multiplication des bacilles derrière le front de cet enfant ». C'est à travers cette cohue qu'il faut que l'âme et l'immortalité percent leur passage vers l'éternel. Ah, ne lui demandez pas comment, il ne sait pas, il est trop fatigué pour répondre. Tout ce qu'il peut, c'est de figurer avec le pouce de petites broussailles sur la toile cirée. À genoux devant le berceau, il effleure d'un baiser léger l'enfant qui se meurt. Du velours moite, de petits cheveux, des yeux déjà vidés, une odeur urineuse et douceâtre. Voilà ce qui vient à sa rencontre, et aussi le rappel d'une chose charmante qu'avait trouvée Christine et dont il est quelques minutes à se souvenir. On trouve sous ses lèvres une petite joue, et c'est une rose. On trouve sous ses lèvres une petite rose, et c'est une joue. Oui, c'est bien ce qu'elle avait dit. Une goutte d'eau sucrée, un linge humecté d'eau froide, fameuse barrière pour retenir l'âme de ce côté-ci de la vie. Où va-t-elle, cette âme? Et même, où est-elle en ce moment? Il y a 3 semaines, elle éclatait de vie, elle savait 1000 façons minuscules et forcenées de se soumettre au monde. Et maintenant, elle replie ses ailes d'une certaine manière inconnue. Le langage des causes secondes ne l'exprime pas. Il n'est fait que pour l'expérience commune, où ne se voit rien de Dieu. Sur aucun clavier, il ne pourrait jouer autre chose. Toutes les touches casseraient sous le coup de poing du titan. À 7h30 du matin, dans le désordre des pièces non faites, on sonna. Augustin se trouva devant un gros vieux prêtre robuste, coupe rosée, le cheveu dru et gris. « Je viens porter la Sainte Communion à Madame votre mère, » dit-il. Après quoi, il attendit en un recueillement si extraordinaire qu'il paraissait factice, ressemblait à une paralysie ou à une cécité subite. Christine, prise de court, se hâtait. Augustin, n'ayant jamais assisté aux cérémonies de l'extrême-onction, ne servait à rien. Il voyait les déploiements de linge, les déblaiements de table, d'autres mouvements rapides et silencieux dont il ne devinait pas le but. Une voix sourde et précise lui jeta « Allume 2 bougies !» Puis « Un verre à pied, propre !» Il exécuta de confiance la règle des rites inconnus. Dans la salle à manger, le vieux prêtre gardait sa raideur hiératique. Mais un surplis blanc le revêtait cette fois, et une longue étole bordée d'or. Il y avait un grand manteau noir posé sur le dossier d'une chaise. Auprès de la malade, les 2 bougies, les linges blancs, le buis du dimanche des rameaux et le verre d'eau bénite composaient un petit autel. Christine introduisit le prêtre en s'effaçant. « Maman désirerait se confesser, » lui dit-elle de la voix respectueuse et sourde qu'elle eût prise pour se confesser elle-même. Mais il répondit simplement « Pax huic domi ». Ce qu'il supplémenta au bout de quelques secondes par cet autre souhait latin « Et omnibus inhabitantibus inea ». C'était un répond et il avait attendu qu'on le lui énonçât, une faute de ne pas l'avoir fait. En d'autres circonstances, Christine n'y eut pas manqué. Elle tournait fébrilement les pages d'un recueil de prières recouvert de papier gris comme un livre d'écolier. On n'avait pas eu le temps de renouveler le feu, il faisait très froid. Augustin ferma doucement la porte. Le vieux prêtre, debout, massif, faisait écran devant la fenêtre contre les hachures d'une pluie neigeuse. Augustin le vit s'avancer, s'agenouiller en face du petit autel. Devant ces flammes exsangues des bougies de plein jour, il pencha sa tête de loup gris. Un miroitement d'or luisait entre les bougies. Christine répondait au verset latin sur l'aspersion par l'hysope et la blancheur passant celle des neiges. Mais bientôt, elle fit signe à Augustin. Comme il ne comprenait pas, elle dut lui dire tout bas de partir. Le vieux prêtre s'asseyait déjà au pied du lit. « Qui est-ce ? » demanda Augustin de l'autre côté de la porte. « Le chanoine B, » fit Christine. Puis ce sentiment que, malgré les pires appréhensions, une femme n'évite jamais. « Oh, je suis confuse de ce désordre, je suis confuse !» Loin de prendre fin, le désordre conquit d'autres provinces, envahit des placards et des rayonnages, se prolongea en cris de vieilles serrures et de gonds. Christine reparut portant des accessoires étranges, un paquet d'ouates qu'elle se mit à défaire, à morceler, à pelotonner, une assiette, de la mie, de l'eau, comme pour un repas d'oiseau. Lorsque le chanoine ouvrit la porte, Augustin comprit que tout ce qui lui avait jusqu'alors paru recueillement n'en était que l'imitation et l'ombre. Il le retrouvait, en sa plénitude, sur les immobiles traits de sa mère, dans l'expression de gravité immensément profonde que l'âme arrivait à imposer par sa seule présence à toute cette chair empâtée et bleuie, vivant déjà dans le gâchis qui lui plaisait. Le discours du vieil homme fit passer devant Augustin les mêmes évocations de mort dont s'écrasait sa propre pensée, mais séparé de cette inépuisable épouvante où il vivait depuis 6 jours. Il les vit asservis, simplifiés, forcés d'entrer sous les gabarits nouveaux, ressortissant du stock d'idées générales, à la fois administratives et surnaturelles, aménagées en vue de l'absorption de la mort, de son intégration dans les permanences. C'étaient de grands thèmes théologiques, pleins de dogmes, de raisons, de maîtrise de soi et d'une humble assurance en la paternité de Dieu. Le vieux prêtre parlait dans des formes de phrases déjà anciennes qui eussent trahi chez d'autres une légère affectation d'archaïsme, mais représentaient en réalité la manière dont quelques directeurs qu'il avait aimés devaient encore professer l'éloquence dans les séminaires lyonnais de sa jeunesse. Avec cette maîtrise des textes sacrés, traditionnels dans ce qu'on appelait autrefois non pas le gallicanisme, mais l'Église de France, ce prêtre septuagénaire, un peu voûté et de ventre gros, encore vigoureux et large d'épaules, le visage fibrillé sous des cheveux gris qui ne blanchissaient pas, se montrait tel que l'avait fait 50 ans d'austérité, un règlement sacerdotal ponctuellement suivi, les secrètes mortifications intérieures et les grands jeûnes de jadis. Il était un de ces curés des temps conservateurs et concordataires, chef de paroisse un peu strict, un peu rigoriste dans la direction des âmes, mais plein de prudence, de bon sens et d'autorité tranquille, de ceux qu'il fallait d'abord connaître, comme disent les bonnes gens, mais dont on ne savait ensuite si l'on ressentait pour eux plus d'affection ou plus de respect. Un problème. Comment cet homme, l'ancien professeur de l'abbé Bourret au grand séminaire, qui avait gardé des relations avec lui, qui le connaissait, n'en perçait-il pas la cuirasse? Sans doute parce qu'il devait voir Bourret fort rarement, ensuite parce qu'il était bon, et que cette qualité admirable, la plus haute de toutes, peut-être pour l'avoir faut-il payer rançon. Le chanoine communia la malade. Christine était à genoux, Augustin s'y jeta aussi, un peu en retard. Christine se leva avec une douceur soudaine, sans qu'il comprît pourquoi, mais ensuite il la vit présenter aux lèvres de sa mère l'un des verres d'eau préparés, tandis que son autre bras entourait l'oreiller où reposait la tête. On entendait à travers la salle à manger le bruit des brocs d'eau sur la pierre, le heurt des galoches, toutes les sonorités produites par la grosse Marie et 8 heures du matin. Augustin attira le dossier d'une chaise et s'y appuya. Il sentait un début de vertige et se rappela qu'il n'avait pas mangé. Christine, retombée à genoux, gardait le buste rigidement droit. Elle dialoguait en latin avec le vieux prêtre. Il s'agissait de la puissance du diable et de l'imposition des mains. Les formules classaient les fautes par région d'origine avec une grande simplicité, comme des crus et des denrées. Le cours des paroles s'interrompait quand le chanoine saisissait les cotons préparés ou qu'incombait à Christine des opérations douces et lentes, comme de découvrir les pieds en écartant les draps. L'effort vocal reprenait quand le pouce traçait les petites croix d'huile. Augustin ne se rappela pas si le nombre en avait été de 6 ou 7. Dans la formule répétée 6 ou 7 fois aussi, revenait le même mot « et suam piissimam » avec la monotonie d'une chanson d'ouvrier. Grande assurance que de guérir ainsi l'âme de la langueur et de l'infirmité née de ses fautes, et que la formidable paternité de Dieu agit par le moyen de ces petites croix d'huile. Toutes ces choses étaient d'une telle simplicité. En partant, le prêtre pencha sur l'enfant son lourd visage de demi-aveugle. « Vous avez double inquiétude, madame. » « Monsieur le chanoine, pour mon petit enfant, ce ne sont plus des inquiétudes, » dit Christine d'une voix ravagée et respectueuse. Comme il avait l'air d'attendre une explication, elle éclata en bredouillement reniflé où l'on entendait le mot « calvaire ». Le vieux prêtre lui épargna toute dénégation. Mais quand il voulut la consoler, parlant de la conquête immédiate du ciel, citant le « Sinite parvulos » et le « Me autem propter innocentiam meam succepisti », Augustin sentit que les mots ne traversaient pas les épaisses paroisses de cette souffrance. Une douleur irritante et supplémentaire naissait de cet effort vain. Le vieil homme ne s'y trompa point. « Mon enfant, dit-il, il est réellement des circonstances où les seules conduites possibles sont les conduites héroïques. Bien peu de martyrs ont cherché le martyre. Tous l'ont accepté cependant. Il est assuré que certaines parties de notre pauvre vie sont d'autant plus aisées qu'elles sont plus aveuglément abandonnées à Dieu, comme si le degré ordinaire et moyen des vertus nous était moins praticable que la sainteté que Dieu paraît exiger de nous. Si c'est votre lot, ne vous en plaignez pas. » Il s'inclina cérémonieusement, sans leur tendre les doigts, saisit son gros parapluie mouillé qui gouttait sur le palier, et sa vieille main rouge commença de descendre le long de la rampe. Restée entre les portes de la cuisine, la grosse Marie expliqua d'une voix où sonnait le plein air des pluies. « Quand j'ai vu monsieur le curé, j'ai bien pensé que ça n'allait pas mieux. » Puis, cherchant quelque temps la bouche ouverte, elle trouva « Ça serait bien à désirer que ça aille mieux. » C'était une sympathie. Augustin l'entendit ajouter pour Christine le détail des diverses besognes qu'elle avait déjà faites tous les matins les mêmes. Il n'y avait là rien de nouveau, sauf peut-être ce vague désir de la grosse Marie de présenter, au moins par là, quelques contreparties au destin. « Je vais toujours finir de monter mon bois. Après, je savonnerai mes lanceaux. » Le médecin vint comme tous les jours. Bébé était à chaque instant souillé de sueur et de sel diarrhéique. Christine ne savait pas pourquoi, puisqu'il ne buvait plus. Le docteur écoutait, distrait. Il abandonna le poignet de l'enfant avec la même douceur qu'il avait mis à le prendre, disant tout bas « Incontable ». Penché à un certain angle sur ce petit visage d'un rose sinistre, il examina les pupilles à travers les paupières entr'ouvertes. Les deux autres, debout auprès de lui, comprirent. Redressé, il devança toute interrogation. « Nous sommes bien désarmés, madame. Donnez-moi quelque chose pour l'empêcher de souffrir, » dit-elle d'une voix sourde au calme mortel. Le médecin eut l'air de se jeter sur cette idée. « Il ne souffre pas, je puis vous l'affirmer. » Il cherchait autre chose pour ne pas partir sur ce silence. Tourné vers Augustin, avec cette gravité durcie que les maîtres de cérémonie prennent aux grandes obsèques, tout se passe pour lui dans des régions physiologiques plus bas que la conscience. Gauche réponse, qui s'entêtait à ne pas mentionner la visiteuse noire, lui laissait la charge de s'annoncer elle-même officiellement quand tous ses précurseurs déjà se promenaient dans la chambre. Le vieillard aux croix d'huile savait mieux parler de la mort. Dans la pièce voisine, après l'examen de Madame Méridier, Le médecin se redressa en soufflant du nez. Il regarda dans l'angle du plafond avec des yeux rapetissés, plissés, pleins de distraction, de bonhomie et presque d'amusement. « Quel affreux temps » fit-il. « D'ailleurs, à 700 mètres en pleine montagne. Mais il fait bon ici. Ce feu marche bien. » Les longues pluies glacées sifflaient contre le mur. Quelques gouttes hardies tombèrent dans la pièce par l'entrebâillement de la fenêtre. L'air était âpre et tiède, comme une caresse rageuse. « Allons, madame, c'est très bien. Nous allons vous laisser reposer un peu, puis je viendrai dans l'après-midi pour vous faire respirer mieux. » Mais dans le vestibule, tout changea. « Écoutez, monsieur, votre mère ne va pas du tout. Le cœur faiblit beaucoup plus qu'il n'est normal, même dans son état. » Ils durent attendre qu'acheva de monter Madame Boudet. On voyait croître et se détailler sa coiffure en coque de satinette noire. Elle adressa aux deux hommes un de ces saluts pleins de froideur, de dignité, de conscience de soi, dans l'effacement qui n'appelle pas de réponse ni n'en désire. La minceur de ses lèvres tirées les assurait qu'elle souhaitait ne rien écouter de ce qu'ils disaient. Elle les contourna sans les regarder et referma doucement la porte. « Votre mère fait un œdème volumineux. Jamais la digitale ne passera là-dedans. Et il faut qu'elle passe, il n'est que temps. Je viendrai cet après-midi pour la saigner. Je ne vois pas d'autre moyen de crever ces barrages. » En rentrant, Augustin dit à voix sourde que leur mère n'allait pas du tout. « Le médecin reviendra ce soir pour la saigner. » Christine leva sur lui des yeux durs et fous. Il s'aperçut que malgré l'état de sa mère, malgré toutes ses inquiétudes, malgré l'extrême onction, elle n'avait jamais entièrement cru au dénouement final. La présente crise, un peu plus grave, ne ressemblait-elle pas aux autres crises? Elle savait quels soins donner et à quelles heures. Elle l'avait fait d'autres fois, elle se reposait sur ses habitudes, s'en rassurait obscurément. Toutes les manipulations matérielles, lavage, petits repas de lait, remèdes, arrangements de couverture et d'oreiller, étaient presque les seules occasions qui l'amenaient auprès de sa mère. Elle y venait avec une douceur humble, comme si elle cherchait à se faire pardonner ses absences, sûre cependant de faire tout ce qu'il fallait. Le service rendu, elle embrassait la malade d'un baiser long et effleurant et retournait près du berceau. Ce fut cette vue trop optimiste des choses que dissipèrent les pronostics médicaux. Pour la première fois devant Christine, les paysages d'une double épouvante se déroulèrent dans leur ampleur et leur impassibilité. Elle allait et venait, déchiquetée de détresse et de stupeur. Elle ouvrait des placards, les refermait, ne sachant ce qu'elle y venait prendre. Elle entrait dans sa chambre, en ressortait d'un air égaré. Augustin l'y surprit, agenouillé, la tête enfuie, les épaules agitées de petites secousses. Un continuel « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible » pleurait sans arrêt en elle. Il y pleurerait longtemps encore, plein de cette invraisemblance dont s'accompagnent toutes les morts, comme avait fait jadis pour Augustin la mort de son père, et comme elles font toujours. Christine se demanderait si elle ne rêvait pas. Elle heurterait chaque fois sa pensée à la même inexorable et identique réponse, chaque fois du même heurt dur, jusqu'à ce que, roué de coups, vidé de force, ramené face au mur et s'y cassant la tête, toute protestation contre l'incroyable finit par s'affaiblir et s'éteindre. Elle vivrait alors dans l'atmosphère nouvelle et dans sa solitude, sans plus oser s'en étonner, l'acceptant comme seule véritable, avec de rares crises de paroxysme, quand apparaîtraient, par exemple, les images de l'ancien bonheur encore humide de vie, et aussi quelques survivances de stupeur démente, comme un sanglot d'enfant grondé qui n'en finit plus. les allées et venues de Madame Boudet chez le pharmacien, l'étalement des langes passées au savon par la grosse Marie et que l'autre ensuite faisait sécher, des espèces de repas qu'elle présentait aux heures accoutumées, toutes ces occupations remplirent en apparence le temps. Assez tard dans la soirée vint le premier avertissement. La vieille mère, soulagée, avait bu deux bols de lait pour apaiser la soif de la saignée. Elle reposait. Il régnait dans l'appartement cette oisiveté qui traîne autour des maladies. Augustin finit par gagner brusquement sa chambre. Il ouvrit les portes de l'armoire, retrouva les éternelles fiches. La dernière, qui portait une ligne transversale barrant un paragraphe, s'appelait « Stéresis de Caï Exis ». Cela du moins était dur, froid, sec, géométrique, indolore. Cela ne pleurait pas. Avec suffisamment d'entêtement, sa pensée pourrait peut-être s'en occuper une heure ou deux. Encore serait-ce de peu de service. Sa douleur, pareille à un organe de son corps, montrant une structure et des exigences qu'il ne pouvait modifier qu'à condition d'en éprouver une autre douleur. L'image de ce qui se passait à côté revint toute seule, obstinée, tyrannique, porteuse de détails de lit et de berceau. Il jeta sur les autres l'affiche « Stéresis de Caï Exis » et s'en fut tapoter la vitre. Des stries obliques remplissaient l'espace dans la direction où s'étaient portés tant de fois ses yeux et son cœur désespérés. Il sentit comme une colère contre il ne savait qui ou quoi, une dureté furieuse, une rancune de voler, un désir fou de ne plus penser qu'à elle, de crier « Assez, assez !» à tout le reste, de fermer sur lui, s'il l'eût pu, les portes du monde. Il comptait 4 jours, depuis le moment où il avait manqué irréparablement sa visite. 4 jours de silence noir. Revoir l'endroit du salon où elle s'était trouvée, l'escalier où elle avait parlé à Christine, sentir le parfum de sa tante associé à elle. Quel enfantillage! La tête posée sur la vitre, il se laissait aller au doux et déchirant besoin de sa présence, au désir de se faire consoler, mêlé à la certitude qu'aucune chose ne serait jamais plus ce qu'elle aurait pu être, que toute joie tomberait désormais pour lui sur une âme saccagée, sur un avenir massacré par cette double mort. D'autres sentiments encore attendaient qu'il voulût bien s'occuper d'eux. C'étaient des remords. Se surprendre attentif à son bonheur personnel, retomber sur son amour comme une surface de stabilité, pour recommencer le jeu après Maldon, penser à la beauté possible ou impossible de sa vie. Quel emploi du temps devant cette torture des siens. À sa stupeur, il lui arriva de constater une haine subite pour son amour, non pour celle qu'il aimait, ni pour sa souveraineté ineffable, mais pour son amour, comme s'il pouvait le désincarner de celle qu'il aimait, le faire vivre à part d'elle et de lui. Entité monstrueuse, il détesta cet amour et le ligotage de son cœur à ce moment spécial de son existence. Haine suivie de cet agenouillement fictif et de ce repentir éperdu, dont il avait senti la douceur au fond de lui-même quand il désespérait qu'elle s'intéressât jamais à lui, au premier jour qu'il l'aimait. Il fixait une empreinte graisseuse dont son front avait marqué la vitre et qu'on voyait encore malgré le début de la nuit. Il se sentit doucement touché à l'épaule. Christine le regardait d'un étonnant visage calme et tragique. « Je crois que c'est la fin, » dit-elle. Bien que la chambre tournât vaguement autour de lui, Augustin eut cependant besoin d'un certain nombre de secondes pour comprendre de quoi c'était la fin. Il se jeta tout de suite sur cette forme de consolation qu'utilisent les médecins. « Il ne souffre pas ? » ?»« Je ne crois pas, » fit-elle avec ce même calme de crucifixion. Mais lui ne trouva pas de différence entre ce moment et les précédents du même souffle misérable, pas plus qu'il n'avait rien discerné de la paralysie oculaire à travers la fente des petites paupières mauves. Rien n'avait changé dans la position où s'étaient par hasard arrêtés les derniers mouvements volontaires, après lesquels il n'y en aurait plus d'autres. Il voyait, assise et de profil, une Christine aux mains jointes dont les épaules montaient et descendaient avec une douceur régulière. Ils restèrent là un certain temps. La porte du palier craqua. Des pas lourds et précautionneux s'approchèrent. C'était la mère Rambaud. On entendit des bruits de conciliabule. Madame Boudet partait. La veille, au moment de partir, elle était venue dire, avec une inutile précision de détail, « Je prépare du café au lait. Madame le prendra quand elle voudra. Tout est prêt. Il n'y a plus que telle autre chose à faire. Le couvert est mis dans la cuisine. » Minutie d'informations oiseuses et insistantes destinées à faire remarquer la perfection de son service et la discrétion qu'elle mettait à ne pas la signaler autrement. Augustin lui dit assez rudement « Oui, Madame Boudet, ça va bien. » Dans la conversation qui se prolongeait avec la mère Rambaud, il crut entendre « Monsieur Boudet disait à ces messieurs, mais sans doute c'était dans sa tête à lui que traînait la rengaine. L'air rusé, familier et sordide dont elle parlait à la mère Rambaud s'accordait mal à ce formalisme pincé qu'elle n'employait que pour eux. Elle s'en alla, marge grotesque, sous la grande frise de la mort. L'on put entendre de très loin battre la porte de la rue. Vint pour sa mère le moment des remèdes et du lait. Il prépara le feu de la nuit, assujettit l'ouverture de la fenêtre, fixa l'écran de la veilleuse. Comme il l'embrassait en l'effleurant à la manière de Christine, il entendit quelques mots bredouillés dire à Christine de ne pas oublier pour demain. Il s'agissait d'une des occupations périodiques de leur petit ménage, du temps que bébé allait bien. Il fallait que Christine dise combien de minutes elle voulait faire cuire la bouillie, parce que... Les autres mots furent insaisissables. C'était la première fois qu'il constatait ce commencement de délire. Un sentiment de culpabilité, un amer reproche recommença dans son cœur. Pauvre négligé. Christine, tout à l'autre douleur. Lui, visité de brûlants désespoirs, aucun totalement à elle, pendant le peu de jours où il l'avait encore. Il la regarda respirer. La disposition de la veilleuse l'enveloppait d'une ombre dont on ne voyait sortir que le nez et les attaches du bonnet de nuit gonflant sous le menton. Christine n'avait pas quitté le berceau. La mère Rambaud les trouva là, leur apporta deux bols de potage, les posa sur la table auprès d'eux. « Il faudrait bien que madame mange un peu, » dit-elle à Augustin. « Il est tard, voyez-vous. Elle ne pourra pas rester comme ça sans manger. » Elle parlait d'une voix basse, pleine de peine, de pitié et de la notion nette des irréductibles choses matérielles, plus forte que les souffrances. Elle s'en fut avec une douceur lourde et sans bruit. La fumée du potage sentait une honnête odeur de navets, d'oignons et de pommes de terre. Comme il lui conseillait de manger et de se reposer, Christine lui fit signe que non. « Vois-tu, en ce moment, je l'ai encore à moi. Je puis le regarder encore. Laisse-moi, je te réveillerai peut-être bientôt. » Il lui porta cependant aux lèvres le bol de bouillon qu'elle but. Couchée, ivre de fatigue, sa chambre lui parut extrêmement froide et déserte. il prit juste le temps de monter sa montre. Abandonné à l'oreiller, sa tête commença, comme d'habitude, de sentir des piqûres intérieures qui, cette fois, ne diminuèrent pas. Il retrouvait les insomnies nerveuses d'autrefois. Deux fortes cuillerées de valériane lui firent, au bout de 3 quarts d'heure, perdre le contact des draps. Il savoura l'enveloppement d'un écrasant repos, les grandes ailes noires qui l'opprimaient se déprirent de lui. Augustin écarte maintenant de molles barrières pour retrouver la présence de sa sœur. Non pas Christine, mais son autre sœur, Suzanne, partie pour la Chine, il y avait bien longtemps. Il se sent une certaine vigueur reposée. Il nage dans des eaux presque blanches, sous une curieuse voûte blanche, et il rêve qu'il rêve, et qu'il a déjà vu de pareilles choses en rêve. Il bat ses eaux blanches d'un effort graduellement inutile, car elles cèdent, changent de nature, deviennent aériennes, et entrent comme toute chose dans la grande remise en place des fins de songe. Des rideaux revenus du néant bordent son lit, comme tous les matins. Seule persiste cette lueur blanche qui tombe d'un plafond curieusement lumineux et mat. Augustin se lève, gagne la fenêtre. Tous les jardins sont sous la neige, une neige précoce de la mi-octobre tombée toute la nuit. Il a dormi comme une masse 6 heures de suite. Des arbres isolés, d'autres en bouquet, percent le blanc absolu des neiges. Ils en soulèvent des lambeaux qu'ils portent sur leurs épaules, manteaux splendides et guenilleux, seul incident sur la molle étendue immaculée. Le ciel gris-jaune ne compte plus, toute lumière est ramenée au sol, captée et absorbée par la neige. D'instinct, Augustin cherche sous les arbres les ombres bleutées spéciales au pays des neiges. Mais il n'en voit pas. Seuls, aux moyennes distances, des points privilégiés, des paillettes éblouissantes, d'une petitesse atomique, ressemblent à des rugosités de la lumière. La grande douleur s'est réveillée plus tard que lui de quelques minutes. Et c'est devant ce spectacle qu'elle le rejoint. Christine devait l'appeler pendant la nuit. Que s'est-il passé derrière ces portes, puisqu'elle n'est pas venue? Son cœur se contracte sous cette mystérieuse poigne dure dont il a maintenant l'habitude, pendant que l'eau glacée lui brûle le visage, lui engourdit les mains sur le linge. À pas lents, confus de sa bonne nuit, Augustin s'approche de Christine affaissée contre le berceau. La lampe à pétrole, à demi remplie la veille au soir, se trouve maintenant presque pleine. On a dû pendant la nuit la renouveler. Il a fallu remuer, ouvrir des portes. Rien de tout cela n'est venu jusqu'à lui. Comment va l'enfant? Toujours de même. Provisoirement laissé de ce côté-ci de la vie, on ne sait pourquoi ni pour combien de temps. Christine s'explique de cette même voix basse, comme s'il y avait dans la chambre quelqu'un à ne pas réveiller. Je ne fais rien. J'essuie sa sueur. J'humecte ses petites lèvres. Il peut passer dans 1 heure, 1 demi-heure. Je reste près de lui. Mais il ne passa pas. On vit recommencer l'horrible insipidité du jour. La grosse Marie monta le lait, le bois, l'eau. La seule différence fut l'insolite raclement de ses sabots pleins de neige. Quand elle parut dans l'encadrement de la porte, ses grands bras désœuvrés conservant la courbure dont il portait la bûche, elle ne demanda pas si, alors, ça n'allait pas mieux. Elle vint simplement dire, avec un certain respect dans sa voix assourdie, que, puisqu'il n'y avait pas de bain à faire chauffer, ni de lanceau à laver, eh bien, n'est-ce pas, tant vaudrait qu'elle s'en irait bientôt parce qu'il fallait balayer la neige sur le devant de la porte de la boucherie et de l'auberge. Peut-être qu'elle ne viendrait plus. Elle ne pouvait pas dire. Ces messieurs et dames verraient bien. Ils avaient quelqu'un maintenant. Le médecin traversa la salle à manger comme une chambre mortuaire, atténuant le bruit de ses chaussures, honteux d'être pesant et bien portant. Augustin sentait sur son pardessus une odeur râpeuse d'air humide, pur et glacé, pendant qu'il bavardait près de Madame Méridier. Curieux temps, faisait-il. Vrai jour d'hiver. Le bonhomme qui lave ma voiture m'a dit ce matin qu'il n'avait pas vu ça depuis 1892. Ça durera 4 ou 5 jours, peut-être. Le temps de vous maintenir au lit, madame. Il s'inclina devant Christine avec une sorte de respect et ignora le berceau. Mais dans l'escalier. Le cœur est le même, le pouls est le même, les jambes gardent leur œdème. Le mieux qu'elle croit sentir est tout subjectif et la trompe. Que fera la digitale là-dedans? Il leva les yeux et les bras. Digitaline cristallisée, n'est-ce pas? 40 gouttes. C'est un produit fixe, défini. 20 gouttes le matin, autant l'après-midi. L'important est qu'elle absorbe ses gouttes en un seul jour et ne va pas renouveler sous peine d'effet d'accumulation, vous me comprenez. On verra dans 2 ou 3 jours si le remède a prise sur le cœur. Augustin toussa d'une petite toux quinteuse. Le médecin baissa les yeux sur la pierre noircie par la neige fondante des sabots de Marie. Il le releva, les planta droit sur le tousseur. « Vous n'avez pas de fièvre ?»« Je suis fatigué, évidemment, » fit Augustin d'un ton vague. Il était sorti sans par-dessus, le soir de la brume, pour aller chercher le chanoine. C'était peut-être cela. Madame Boudet partie, leur déjeuner absorbé, la digitaline prise. Ils se trouvèrent de nouveau seuls tous les deux, au pire moment de ces après-midi mornes. L'enfant continuait de vivre. Christine avait repris sa faction affreuse. Sur cette façade de la maison où l'on n'entendait rien de la rue, le silence ne s'étalait pas comme aux jours ordinaires. Il était ouaté, mat, aussi absolu que le blanc des neiges. Les sons isolés qui entraient là, le sifflet du chemin de fer, l'aboi des chiens, les fontaines dans les courettes, un bêlement de chèvres qui s'y joignit par grand hasard, perdu, déraciné de tout, voltigeait en pleine atmosphère, entre le ciel et des lieux de neige sourde, la pendule battait comme pendant la nuit. C'était l'heure où Augustin prenait de son désespoir la photographie la plus détaillée et la plus clairvoyante, où il se sentait aussi le plus isolé, le plus séparé dans l'affliction des siens. Il était singulier que cette grande solitude se plaçât toujours dans la seconde demi-journée, vers 3 heures du soir. Un vide d'attention étrange faisait ressortir, autant que ces bruits sur ce calme mortel, certains détails du paysage, les ténues glacis bleus cherchées en vain le matin, et sur le ciel jaune-noir, des plages d'un blanc tendre et puissant, imprégnées d'ensoleillement diffus. Jamais il n'avait connu plus total abandon. De grandes étendues désolées d'avenir ressemblaient à ces champs déserts, mornes et scintillants. Il reconnut, dans le chant complexe de ses souffrances, le timbre déchirant qui annonçait comme toujours l'approche de son ancien bonheur. Alors, il s'écarta de la fenêtre, reprit sa place auprès de celle que la mort torturait d'une torture plus simple. Peine nouvelle dans la catégorie des peines, l'attente d'une mort qui ne veut pas venir. Elle s'est annoncée, mais on a pris pour elle un de ces avant-courriers terribles. Elle est capricieuse princesse et ne rend pas compte de ses desseins. Le cœur des mères doit tisser, détisser, recoudre, découdre ses sacrifices, pour rien, pour le bon plaisir de la mort. Peut-être leur impose-t-elle d'atteindre un état moral rare et haut, dont il faut s'y prendre à plusieurs fois pour engranger l'entière richesse. Peut-être désire-t-elle que chacun de ses allers-retours porte un coup particulier sur la malade de la chambre voisine, celle qui, à coup sûr, mourra de cette mort. L'attente dura toute la journée, commença de mordre sur la nuit. À la demande d'Augustin, Madame Boudet dut aller prier la mère Rambaud de les aider à veiller encore cette fois, bien qu'elle fût venue la nuit précédente. Elle s'y rendit sur le champ, sans terminer sa vaisselle et sans dire bonsoir. Personne n'y fit attention. La mère Rambaud fut là un quart d'heure après. Oh, ce n'était pas à cause de la fatigue. Elle était bien habituée. Elle dormait le jour, une couple d'heures. Heureusement, l'Adèle pourrait la remplacer un peu cette nuit-ci, précisément elle lui avait demandé. L'Adèle devait être quelque voisine, vivant sans doute avec elle en un constant échange de services, toutes portes ouvertes, dans le communisme de la pauvreté. Christine remercia la mère Rambaud en mots d'une douceur et d'une humilité qui étonnèrent Augustin. Elle prit avec une reconnaissance anormale le bol de potage qu'elle absorbait jusqu'alors d'une résignation mécanique. Augustin se rappelait par contraste le masque immobile, la stupeur tragique des premiers jours, une sorte de glace ardente où se durcissait au début de son regard et les accusations muettes obscurément proférées par toutes les attitudes de son corps. Dans la prière, dites comme tous les soirs auprès de leur vieille mère, les mots qui parlaient de la mort furent comme des mots de cantique. Il y en avait beaucoup. Augustin s'inquiétait de cette exaltation. La malade, retombée à l'état d'avant la saignée, sifflait ses souffles à angle droit sur son lit. L'arrangement d'Augustin fut que Christine ne veillerait pas seule. Lui ou la mère Rambaud l'assisterait. Elle accepta de se coucher la première. Au moindre changement dans la respiration de l'enfant, on devait l'appeler. Elle s'en fut avec cette même étonnante douceur. Entre les montants de la porte, elle tituba, se redressa. Augustin entendit crier son sommier. La mère Rambaud se prépara à dormir une couple d'heures, comme elle disait. Au bout de ce temps, elle fut de nouveau devant Augustin. Elle avait mis pour la nuit, au lieu de son bonnet tuyauté, une coiffe blanche sans bord qui lui arrondissait sa bonne et terreuse figure. « Il faut aller vous coucher, vous aussi, pauvre monsieur. » Néanmoins, il s'attarda quelque temps auprès du berceau où le petit tas de chair qui avait été bébé se préparait à la dispersion dans l'universelle vie. Un carré de papier sombre faisait, comme tous les soirs, écran sur la lampe. L'extrême silence ruisselait comme un bruit. L'état de l'enfant ne changeait pas. Ils se mirent à parler à voix basse au-dessus du petit moribond. La mère Rambaud expliqua qu'elle avait perdu 5 enfants. Il y en eut un qui resta près de 10 jours. L'on croyait qu'il allait passer tous les jours, et il ne passait pas. La vieille femme maintenait sur lui de pacifiques yeux usés, dans sa tête couleur de peau de terre. Les médecins ne savaient pas ce qu'il avait, voyez-vous. C'était le mal de la mort. Contre le mal de la mort, on ne peut rien, n'est-ce pas ? Ses 2 mains contre la ceinture de son tablier, devant les poches qu'elle avait là, y faisaient sonner des clés et des sous. Ses mains s'ouvraient dans les plis de leur travail quotidien. Le bon Dieu est bien le maître, pas vrai ? Il en sait plus long que nous. Il n'y a qu'à s'incliner et à se soumettre. Le dernier membre de phrase, parti de sermon qu'elle avait entendu, paraissait d'une rusticité un peu moins fruste dans l'humilité du reste. Mais la mère Rambaud n'y sentait aucune différence. La nuit s'écoula, ramena le même matin de neige. L'enfant respirait toujours. La grosse Marie eut le temps de revenir. C'était, dit-elle, la dernière fois. Elle raconta qu'un peu de neige était encore tombée, recouvrant les chemins tracés la veille dans les rues. Il en avait un bon pied dans les champs. Le médecin aussi reparut, fit les gestes ordinaires, serra les lèvres devant l'enfant, laissa tomber les bras pendant les confidences de l'escalier. La grosse Marie voulait repartir, ne tenait plus en place, attendait pour s'évader Madame Boudet qui ne venait pas. « Je vais à la carre, » fit-elle. Elle dégringola l'escalier, pesante et légère, comme une énorme gloire. Une demi-heure après, on vit s'introduire la silhouette noire, restreinte et raidie, de Madame Boudet. Puisque ce n'était pas à elle qu'on avait demandé de rester la nuit précédente, n'est-ce pas, c'est qu'on n'avait plus besoin de ses services. Elle n'avait pas cru devoir s'imposer. Elle leva sur Augustin un visage où la susceptibilité blessée souffrait dans ses yeux gris. Augustin regardait les antiques gants de coton noir, aux reprises infinies, la coiffure de lainage noir ornée d'une satinette noire rougie de vieillesse. Tout cet ensemble pauvre et décent. Le mot de la mère Rambaud lui revint. Elle est si drôle. Elle-même les avait prévenus qu'elle ne veillait pas. Il commençait de le lui rappeler quand Christine, survenant, lui prit la main entre les deux siennes. « Oh, Madame Boudet, » fit-elle avec sa douceur de martyr, « ne nous abandonnez pas. Nous sommes trop heureux des services que vous pouvez nous rendre. Vous voyez qu'ils ne sont pas superflus. » Elle montrait le petit berceau et l'interminable agonie. Madame Boudet changea la position de ses lèvres, soupira et rentra dans sa cuisine. Elle ne voulait pas veiller d'abord, parce qu'elle ne nous connaissait pas et se défendait. Puis elle s'est attachée à nous. Que veux-tu, il faut comprendre. Et tout reprit comme avant dans la tente. Vers midi, Christine vint dire à Augustin, étonné de la prévision et du laps de temps, « Je le garderai jusqu'à 3 heures du soir. » Elle conservait dans sa main un chapelet et un petit foulard de soie blanche froissée. Un peu avant 3 heures, elle appela à voix subite « Augustin !» Bébé respirait d'une manière singulière. Il produisait quelques hoquets inégaux, courts, subits et d'une violence croissante, séparé du groupe suivant d'inspiration par une interminable pause inerte. « Je crois, dit Christine, que mon enfant bien-aimé s'en va vers Dieu. » Elle était livide, le bord des yeux presque rose vif. On sentait passer de solennelles minutes irremplaçables, les dernières de cette petite vie. Quelque chose raidissait Augustin comme un corset de fer. Deux respirations nouvelles ne durent pas mener l'air bien bas dans la mince poitrine. Un autre hoquet, puis l'immobilité. Un hoquet encore, puis une immobilité qui ne finit plus. L'attente se prolonge quelque temps. Il devient invraisemblable qu'un autre hoquet revienne. Plus rien n'agitera jamais le petit thorax. À genoux devant le berceau, Christine renversa la tête à un angle qu'Augustin n'eût pas cru possible et fit en même temps entendre une série de gloussements saccadés comme d'un rire contenu. Il alla très doucement fermer la porte de sa mère. Lorsqu'il revint, sa sœur se trouvait dans une position singulière. Un de ses bras entourait sauvagement le berceau, l'autre tombait le long d'elle. Affaissée à même le parquet, son attitude tenait de l'agenouillement et de l'écrasement, comme ces corps de guerriers morts traînés par des vainqueurs antiques. On voyait une tache blanche sur le plancher, la paume de sa main renversée. Augustin mit un genou sur une chaise qui craqua d'un bruit sec et disproportionné. Il sentait le besoin d'un recueillement terrible qui n'était pas possible que les yeux clos. Une plaisanterie de la mort. Les hommes s'étaient bien effrayés, mais elle, la voici simplement venue, puis repartie. C'était bien simple. Rien même n'avait pu ni venir ni repartir. La petite conscience était morte bien avant les derniers hoquets. Qu'est-ce que la mort? Quand vient-elle? Il n'existe pas une personnification qu'on appelle la mort. Mais il savait bien que sa pensée ne pénétrait point très profond dans les immensités funèbres, passait à peine les premiers pas et tâtonnait autour du seuil. Il se rappela les improvisations de Christine. Dans cette maison, mesdames, messieurs, nous avons un petit garçon. Dans cette maison, il éclata en sanglots reniflés. La chambre était étonnamment calme.